39. Alors 39, il s'agit de décider, si vous en êtes d'accord, de lancer le marché de consultation pour le système roulant de la ligne B de notre réseau de transport en commun en site propre. Succinctement, nous avons décidé le 27 décembre 2006 de confier à la SEMCAR un mandat pour les études de la direction de la ligne B et à l'époque du prolongement de la ligne A. Un marché à tranche conditionnelle dont la tranche ferme comportait deux phases. La première phase a été terminée. Ça consistait à réaliser un dossier d'aide à la décision qui a été présenté le 20 décembre 2007, qui avait décidé de retenir un nouveau tracé de référence de 12 km avec 15 stations. Et le 20 décembre 2007, donc le Conseil avait décidé d'engager la phase 2 de ce mandat confié à la SEMCAR, qui correspond aux études opérationnelles de l'extension. Les études opérationnelles sont regroupées en deux grandes familles, les études et actions à mener pour les procédures administratives et les études et actions préparatoires à la réalisation de la ligne. Notre objectif, c'est qu'il y ait pour le réalisation de cette ligne B, notamment de son système roulant, une concurrence réelle dans notre intérêt, bien compris, puisque il ne faut pas que nous soyons prisonniers d'un industriel, puisque forcément nous passerions à ces conditions. Donc il convient d'engager d'abord la mise en concurrence de l'industriel susceptible de fournir le système de transport, et à la définition géométrique de l'ouvrage, parce qu'elle y comprend, peut donc être sur fer ou sur pneu, qui comprend les rames, éventuellement, qui comprend les usages, les automatismes, les courants, etc. Et bien évidemment, le matériel roulant diffère en longueur et en largeur d'un industriel à l'autre, et ses caractéristiques, sa motorisation, son mode de roulement, son système de freinage, tout peut être différent. Donc, il ne devient pas possible de déterminer le tracé exact et les dimensions d'ouvrage de génie civil tant que le système de gestion automatique n'est pas connu. Donc, on commence par ce qui peut apparaître surprenant, par le système roulant. Rappelons que dans sa séance du 20 décembre 2007, le Conseil de la Métropole avait manifesté sa volonté de réaliser la totalité de la ligne B, et que cet objectif reste encore notre objectif. Mais la libération n'excluait pas une réalisation par phase, compte tenu de l'importance du projet, et on voit bien que les conditions économiques et les conditions financières joueront un rôle, donc il convient que par mesure de prudence, et aussi un message envoyé aux industriels, nous allons vous proposer un projet avec des tranches. Le dossier de consultation doit faire cette possibilité. Alors, il y a la possibilité, je rappelle la ligne, c'est Mermoz. Chamblanc, la ligne complète. Ça pouvait s'arrêter vers Mermoz-Beaulieu ou Puymaugé-Chamblanc, c'est-à-dire l'extrémité sud-ouest ou l'extrémité nord-est, ou Puymaugé-Beaulieu. Pour des raisons d'implantation de garage-atelier, il n'est pas possible de mettre un garage-atelier, en tout cas dans les conditions économiques acceptables, ni à Puymaugé, ni à Beaulieu. Et donc il faut démarrer à un des bouts, le bout sud-ouest ou le nord-est. On voit bien que la partie sud-ouest du quartier de la Courroude en étude et en début de réalisation se trouvera en 2018-2020 pratiquement réalisée. Et donc il apparaît logique de démarrer choisir le tronçon Mermoz Beaulieu avec les tranches Longchamp Chamblanc. Rappelant que l'objectif est de faire la totalité de la ligne, mais que pour des raisons donc y compris tactiques, il est proposé de choisir
ce que ça veut dire.
On parlait de tranches tout à l'heure, en tranche ferme, les tronçons Mermoz. De la même manière, les caractéristiques de ces roulants sont définies dans les conditions que nous allons mettre en négociation avec les industriels. Dès la mise en service, 110 000 voyageurs par jour, avec 4 000 passagers par heure et par direction, et avec un intervalle de temps entre deux rames de métro qui pourrait être de l'ordre de 3 minutes. C'est bien, on va avoir des discussions sur les modes. 110 000 voyageurs par jour, ça n'est pas dans des chiffres correspondant à un tramway. À moyen terme, plus de 200 000 voyageurs par jour, avec 9 000 personnes par heure et par direction, sans faire évoluer le génie civil, et à plus long terme, en faisant évoluer éventuellement la longueur des stations et le génie civil, avec un objectif, quand il est déjà à une capacité, de 15 000 personnes par heure et par direction. Le marché qui sera passé avec industriel concernera l'étude, la réalisation et une partie de la maintenance, ce que je vais essayer de préciser. Donc le dossier du système, et compte tenu de ce qu'il présente, est composé dans une tranche ferme qui, elle, aura deux phases, qui sont d'études, de 24 mois et de 12 mois, puis une première tranche comprenant les études, la fabrication, l'approvisionnement et les travaux, soit sur le tronçon Mermoz-Beaulieu, 10 km près de station, soit sur le même tronçon rallongé d'une station, ce serait la tranche conditionnelle 1 bis, soit sur le même tronçon rallongé de deux stations, à l'intérieur, ce sera un 10, soit sur la totalité de la ligne, ce qui ce serait donc la tranche conditionnelle 1 quater. Une seconde tranche conditionnelle pour le complément de rame, parce qu'on s'est aperçu avec la première ligne que quand ce n'est pas prévu dans le marché initial, quand on recommande des rames en complément, on passe aux conditions de l'industriel et à ses délais. Donc on le prévoit en tranche conditionnelle. Et de la même manière, une quatrième tranche conditionnelle, c'est C4, dans la maintenance, une maintenance de niveau 5 qu'on pourrait choisir plutôt que de le faire nous-mêmes. Il est précisé que les conditions d'affermissement seraient prises dans les délais suivants, pour la tranche conditionnelle 1, 6 mois après la tranche ferme, ça veut dire la réalisation après les études, et puis pour les tranches supplémentaires, donc la TC2, 5 ans après la date d'achèvement, etc. Alors, il convient de choisir un mode d'évolution du marché. Et dans la mesure où, au sens du code des marchés publics, nous ne sommes pas une entité adjudicatrice, mais nous sommes plutôt une entité adjudicatrice et nous ne sommes pas un pouvoir adjudicateur, la seule procédure est le marché négocié, ce qui peut surprendre les élus locaux où vous êtes, puisque, en général, le marché négocié dans nos communes, c'est pour les petits fournisseurs ou les petits montants. Ça suppose donc que la réponse des candidats à payer des charges viendra à la base de la négociation et donc il y aura une négociation à mener. Et pour être absolument certain que nous ayons des réponses, puisque l'objectif vraiment c'est d'avoir plus d'une réponse, eh bien il vous est proposé également de retenir le principe de prime aux candidats qui auraient répondu et auraient répondu vraiment, donc de 200 000 euros hors taxe par candidat, pour ceux qui ne seraient pas retenus. C'est pas le montant en ce moment de ce qu'il faut engager pour répondre à ce type de marché. C'est probablement 3, 4, voire 5 fois supérieur à ça. Mais c'est un signe envoyé aux industriels, signe sur lequel notre marché est ouvert. Il est proposé que, évidemment, la signature du marché ne puisse intervenir qu'après une nouvelle délibération, quand nous connaîtrons l'identité de l'attributaire et le montant du marché, probablement au cours de l'année 2010, de la même manière d'ailleurs que le choix de faire la tranche sur une station supplémentaire ou sur une station supplémentaire, c'est une décision à prendre, là aussi, courant 2010 ou plus tard début 2011, parce que bien évidemment, on n'aura pas un industriel qui répondra de manière efficace et certaine s'il n'a pas la consistance exacte du marché. Donc il vous est demandé en cette délibération d'approuver le principe de mise en concurrence par la procédure de marché négocié, approuver le montant des primes pour ceux qui ne seraient pas retenus, autoriser la CNCAR à verser ses primes aux industriels non retenus qui auront participé, et décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connue l'identité d'attributaire, le montant du marché et le plan prévisionnel de financement.
Merci. Intervention de Chavana, Mme Olivreau.
Oui, Monsieur le Président. Évidemment, le point clé de cette délibération, c'est l'explication compliquée qu'a donnée Monsieur Jouyet sur la question des tronçons et du phasage. Je rappelle qu'on a vécu pendant près d'un an depuis la délibération de décembre 2007 sur le plus grand flou, puisque en même temps nous vivions et nous vivons toujours sur l'idée que cette réalisation du métro sera phasée, et en même temps le dossier de la décision nous présentait une multiplicité de possibilités avec les bornes qui ont été indiquées par M. Jouyet, mais il n'était pas tranché. Aujourd'hui, on commence à avoir une indication, On pensait, après dire, que le dossier d'aide à la décision laissait supposer que financièrement, il n'y avait que Puymaugé-Beaulieu qui était possible. Et en même temps, ce qui crevait les yeux et qui apparaît maintenant, c'est que faire démarrer la ligne de métro à Puymaugé, c'est-à-dire faire venir quelque part du côté du boulevard de la Tour d'Auvergne tous les moyens relais, c'était absurde, et puis qu'il y avait aussi cette question du garage atelier qu'il n'était pas possible de mettre en plein cœur de Rennes à cet endroit-là. Donc, ce que révèle la décision aujourd'hui, c'est qu'on prend acte de cette réalité et qu'il faut bien sortir de l'hypothèse financièrement la plus plausible, qui était celle du dossier de la décision, qui était de loger Beaulieu. On n'avait pas de choix, on commence à en avoir un. Quelle allure a-t-il ? C'est un choix qui va de la Courrouze, de Mermoz à Beaulieu. Évidemment, tout ça est entouré de précautions, de langage, en disant il y a une tranche additionnelle, un bis, un terre, quoi terre, etc., pour dire que peut-être on fera le reste. C'est exactement le même langage qui nous avait valu des promesses pour la prolongation de la ligne A vers Champy. Je remarque au passage que maintenant, ça y est, c'est fini, elle a complètement disparu. Donc, on est en train progressivement d'acclimater l'idée que la ligne de Val, ou d'un autre moyen, la ligne de métro, sera une ligne entre Mermoz et Beaulieu. C'est-à-dire une ligne raccourcie par rapport à une ligne qui était déjà intra-rocade. Nous rentrons dans une problématique qui met en péril l'équilibre même du choix qui a été fait. Et nous ne sommes même pas sûrs, parce que par ailleurs nous avons des clignotants sur tous les éléments du financement espéré, attendu, décrit dans le dossier d'aide à la décision, qui était reposé sur des hypothèses optimistes en matière de taxes professionnelles. Or, l'actualité nous invite à la prudence, notamment quand on voit ce qui se passe du côté de PSA, qui reposait sur des hypothèses optimistes en matière d'aide de l'État, et là aussi, la situation des finances publiques nous invite à la prudence, et qui reposait aussi sur des hypothèses de négociation plutôt optimistes en matière de crédit, et je ne fais pas de commentaire sur l'actualité. Et évidemment, le reliquat étant la fiscalité ménage, sur lequel on ne pourra pas éternellement tout reporter. Donc nous avons, avec ce schéma qui se dessine d'une ligne de desserte qui se rétrécit à l'intérieur des rocades, et d'un autre côté d'un système de financement que le contexte ne nous assure pas, l'équilibre général du système qui est en question. Il est d'autant plus en question que nous voyons mois après mois grandir la problématique de comment dessert-on l'agglomération. Nous avions à l'entrée même de cette salle tout à l'heure, des exemples de gens qui sont en train de faire l'arbitrage alors qu'ils étaient desservis par un système de transport en commun, qui malheureusement est contraint, se prépare à faire un arbitrage pour la voiture. Je rappelle que 70% des déplacements de la métropole se fait en voiture individuelle, bien souvent de manière contrainte, et donc nous avons aujourd'hui quelque chose qui ne répond pas, et avec cette avancée qui est plutôt un recul de la ligne de métro, nous avons un système qui répond de moins en moins. Alors, nous avons une date butoir absolue, qui est la date décrite dans le dossier comme étant 2010-2011, celle au-delà de laquelle, d'abord, ça sera l'heure de vérité, puisqu'on aura à ce moment-là le point sur les financements. Je rappelle que pour l'instant, ça reste le grand mystère. Deuxièmement, nous rentrerons dans la phase active, opérationnelle. Et donc, nous avons aujourd'hui deux ans et demi devant nous pour nous présenter dans cette assemblée une alternative qui nous garantisse une ligne d'aglo et pas seulement une ligne qui se réduise à l'intérieur des rocades quand le développement de la population et de la population qui utilise la voiture est à l'extérieur des rocades. Alors de grâce, puisque vous avez montré l'exemple sur le couvent des Jacobins par rapport au palais Saint-Georges, que les décisions aussi bénie soit-elle de tous les votes pouvaient, ou de toutes les bonnes intentions pouvaient être revues, de grâce, permettez à cette Assemblée, avec une décision éclairée, avant que les choix soient irréversibles, de se prononcer parallèlement, peut-être que nous arriverons à ce choix, mais de se prononcer parallèlement sur une ligne qui soit véritablement un transport en commun, en site propre, d'aglo, c'est-à-dire dans le couloir le plus pertinent, celui, on l'a vu tout à l'heure par l'aménagement de questions, qui comportera le plus de population, c'est-à-dire la diagonale entre Bru et Cesson. Nous avons besoin d'avoir cet élément parce que c'est la véritable réponse aux objectifs de développement durable que nous poursuivons par ailleurs. Et dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas voter évidemment cette délibération.
Madame Olivreau.
Donc, lors du Conseil de Rennes Métropole du 10 juillet dernier, j'avais déjà signifié mon opposition à toute délibération qui engageait concrètement et irréversiblement la mise en œuvre de la deuxième ligne de métro, tant qu'un véritable débat n'aurait pas eu lieu. J'ai précisé alors ne pas vouloir ouvrir un débat de même nature que celui qui a eu lieu déjà à l'époque de la première ligne, c'est-à-dire il y a 20 ans. En effet, depuis, beaucoup de choses ont changé. Il s'agit bel et bien de l'avenir de la métropole qui va se trouver lourdement engagé, mais mon opposition au projet de l'extension du réseau automatique n'est aucunement un combat partisan, c'est une opposition constructive et non obstructive, mais je répète qu'il est urgent et impératif de bien mesurer les enjeux d'un tel projet. Celui-ci coûtera, nous dit-on, 1,2 milliard d'euros, mais ce sera certainement beaucoup plus, c'est-à-dire au moins l'équivalent de 3 budgets annuels de la ville de Rennes. C'est gigantesque dans l'époque très difficile économiquement qui s'annonce. Un tel financement fait mal à propos obérera tous les autres projets de réelle importance jusqu'en 2018. Or, conçu il y a 20 ans, ce projet de VAL ne correspond plus à la nouvelle donne métropolitaine. Nous sommes persuadés en effet qu'il ne répond pas aux besoins actuels et futurs de déplacements courts, ni aux problèmes de transport vers la métropole, et que pour la même somme, voire un coût inférieur, on peut faire beaucoup mieux en termes sociaux et écologiques. C'est pourquoi nous proposons aux élus de la communauté une véritable phase de large information et concertation qui durerait encore, qui prendra en compte la nouvelle donne économique et permettrait d'étudier sereinement les arguments et les solutions alternatives. Car il y en a. Rappelons que pour 1 km de métro, on peut construire 3 km de tram et qu'en dépenses de fonctionnement, le VAL coûte 40% de plus au kilomètre qu'un TCSP de surface, ne serait-ce que parce qu'il faut éclairer et ventiler les stations. Cette phase de moratoire démocratique ne ferait pas perdre de temps puisque le projet actuel ne sera pas opérationnel dans 10 ans. Nous assurons que cela vaut la peine de prendre simplement quelques mois encore pour examiner les solutions qui offriraient à l'agglomération un projet rendant le meilleur service et présentant le meilleur rapport coût-service rendu. Donc en plus de continuer à débattre dans cette assemblée, je profite de l'opportunité d'avoir pris la parole pour vous inviter, Monsieur le Président, chers collègues, les élus ainsi que les habitants de Rennes Métropole, à une réunion en fait qui pourrait initier cette démarche de véritable concertation qu'il est urgent d'entamer. Une réunion que nous tiendrons jeudi 25 septembre à 20h à la maison de quartier de Villejean. Merci beaucoup.
Monsieur Thomas.
Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, je suis mandaté par les élus tessonnais pour vous faire part de l'étonnement causé par l'annonce d'une possible sectorisation par étapes du projet de métro. Réaliser le projet dans son ensemble est annoncé depuis un certain temps comme l'objectif de Rennes Métropole. Envisager les ateliers et garages à la ZAC des Chamblans est un élément qui avait été pris en compte pour notre projet de la ZAC communale des Pierrins. Sachez qu'à ce jour, nos terrains sont toujours disponibles. Le projet, tel qu'il nous est présenté, laisse planer l'éventualité d'une ligne raccourcie dont une des extrémités ne serait plus cessante, comme annoncé depuis longtemps. Cette incertitude crée une véritable inquiétude pour la nouvelle équipe municipale élue en mars. Nous essayons de multiplier les gestes pour nous impliquer dans les projets de Rennes Métropole. À titre d'exemple, ce soir, nous rejoignons le groupement d'études sur le secteur infrarocable nord et nord-est de 500 hectares, une future zone dont on dit qu'elle est la plus importante de France en interrocade. Peut-on imaginer en favoriser son développement en la privant d'emblée d'une desserte VAL? Je rappelle que la ZAC métropolitaine de près de 50 hectares des Champs Blancs, dont les terrassements ont commencé, doit amener l'équivalent de 3 à 5 000 emplois. Il est impensable que de tels projets ne soient pas associés à ce transport collectif permanent. Vous comprenez aisément que l'arrivée du métro conditionne totalement notre urbanisme futur, que ce soit en secteur habitat ou en secteur économique. Nous insistons également sur l'importance de l'apport de ces sondes pour la vie économique de Rennes Métropole. Aussi, les futurs actes sur le territoire tessonnais devront être étudiées en partenariat pour confirmer cet atout économique. Les relations habitat et lieu de travail ne peuvent se concevoir sans réflexion approfondie sur les modes de déplacement et notamment un transport collectif performant. Je ne veux pas croire que les écueils du secteur des Longchamps soient l'origine d'une limitation à l'est du projet. Nous avons toutes les raisons de penser que les tronçons non réalisés auront beaucoup de difficultés à voir le jour plus tard. L'exemple du rallongement de Champy en est l'illustration. Nous voterons ce soir ce dossier, car les trois élus communautaires de Cesson que nous sommes croient pleinement à l'importance de cet équipement. Mais vous comprendrez que mon intervention de ce soir est là pour prendre date, pour vous dire que le choix d'infrastructures de transport qui sera fait conditionnera les capacités d'accueil de l'agglomération, pour souhaiter que sur de tels projets, les communes concernées soient consultées avant que cela ne passe parmi la centaine de délibérations d'un conseil. Limiter un tel projet à l'environnement rennais aura du mal à être compris des Cessonnais et des communes de l'Est, d'Origné et Assigné, entre autres, qui indiscutablement attendent ce projet. Monsieur le rapporteur, maire d'Assigné et conseiller général du canton de Cesson, ne me démentira sûrement pas. Merci de m'avoir écouté, en espérant vous avoir convaincu.
Merci, monsieur Bernard, mais vous n'avez pas besoin de prêcher un convaincu, effectivement, parce que je partage les attendus et les réflexions qui sont les vôtres.
Il a convaincu.
Mais on va donner des précisions. Monsieur Bernard, j'imagine aussi.
Monsieur le Président, quelques mots seulement, parce que vient de décider la commune Bouchonnier-Fouillard, pour relayer quelques inquiétudes de monsieur Thomas, pas pour m'étonner de la sectorisation qui est présentée ce soir, puisqu'elle était prévue initialement, elle était prévue avec notamment des propositions de quatre scénarios qui ont été cités tout à l'heure donc par M. Jouyet. Simplement pour sans doute tout de même m'étonner qu'on choisisse ce moment, qui est celui donc d'une délibération qui engage la mise en concurrence au niveau du système, pour abandonner deux hypothèses qui avaient été développées dans le cadre du dossier d'aide à la décision. Alors sur l'une d'entre elles, il est tout à fait concevable que des études complémentaires, effectivement, aient montré l'incapacité à insérer correctement dans le secteur donc de l'université un garage atelier. Mais en même temps, on nous dit effectivement que l'insertion est possible et à l'est et à l'ouest, s'agissant de Mermoz et des Chamblans. Et on abandonne tout de même une hypothèse qui était celle Puy-Maugé-Chamblans, alors même que dans le dossier de septembre 2007 d'aide à la décision, on nous indiquait que, notamment sur le secteur Puy-Maugé-Boulieu Université, on avait là sans doute le meilleur ratio coût d'investissement, potentialité de desserte pour ce tracé. Donc je crois qu'il aurait été judicieux de conserver à minima cette hypothèse Puy-Maugé-Chamblans, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a en même temps aujourd'hui une étude qui est en cours, celle qui est évoquée dans une délibération concernant l'étude de définition infrarocade Est, et chacun des urbanistes qui travaillent sur ce dossier a mis en avant la nécessité de prévoir une desserte appropriée en site propre, sans d'ailleurs présager qu'il s'agisse ou non d'un métro, et c'est au cœur de toutes les décisions qui seront à prendre sur ce secteur. Effectivement, imaginez si on devait phaser. Alors, on a rappelé bien évidemment que la volonté, c'est de pouvoir réaliser la totalité de la ligne. Mais si l'on devait phaser, imaginez qu'on n'étudie pas cette hypothèse qui pourrait donc être celle de Puy-Maugé-Chamblans, c'est par avance se priver d'une étude pour desservir un secteur donc qui est celui qui a été rappelé, notamment de Rennes-Atalante et de tout son environnement. Et c'est aussi, ça a été rappelé tout à l'heure, sans doute envisager de manière différente l'anticipation en matière d'évolution des modes de déplacement. Parce que pour ce qui est de l'attractivité des lignes qui pourraient être rabattues sur un secteur Est, elles seraient rabattues de manière très différente en matière d'attractivité selon qu'on soit à Beaulieu Université ou à Chamblans. Se rapprocher au maximum, ce qui est le cas pour Mermoz, ce qui est le cas pour les Chamblans, de l'anneau des Rocades, c'est essentiel pour être attractif vis-à-vis des communes périphériques de l'Est, mais vis-à-vis aussi de tous les habitants qui viennent du pays de Rennes, au-delà donc de notre agglomération, notamment pour l'Est depuis l'autoroute A84. je pense qu'il aurait été judicieux de conserver cette hypothèse qui n'est qu'une étude et qui aurait permis sans doute de mieux nous éclairer. Notamment, on indique qu'il s'agit là de simplifier l'objet de la mise en concurrence, mais je pense que cette simplification nous prive de débat au moment d'un choix entre l'Est et l'Ouest si l'on devait s'appeler au niveau de cette liste.
Monsieur le rapporteur,
alors,
je vais m'adresser à s'oppose au problème, je vais m'adresser à ceux qui le soutiennent. Les propos de Mme Olivreau, donc opposition à la deuxième ligne, j'ai trouvé les mêmes arguments, quoi qu'elle en dise, que ceux d'il y a qu'un.
Alors,
exactement les mêmes.
C'est pas toujours, on en a dit, c'est
vous parlez du 21e siècle,
c'est exactement j'ai pas gagné.
Et y compris dans le
problème
sur les trois fois le budget de la ville de Rennes, enfin, je rappelle les débats des plus anciens, des tribunaux de l'âge, les débats sur les surréalistes qui transformaient le coût de la ville en nombre d'emplois. Comme si le fait de faire les travaux, ça n'allait pas créer des emplois. Et donc on nous disait, à grande époque, à ce moment-là, vous auriez pu créer tant d'emplois, comme si les emplois en donnaient des sous, comme ça, aux gens pour rester chez eux, quoi. Et là, quand vous dites, ces trois budgets annuels de la ville, mais un ménage qui fait un investissement pour 30 ou 40 ans, faites donc le ratio, sur combien d'années de son budget il met dans son projet, et il fait un prêt à 20 ou 25 ans. Nous partons pour un projet de 50 ou 60 ans ou au-delà. Donc en quoi est-ce que c'est scandaleux? C'est simplement à la hauteur des ambitions d'une agglomération. On construit un réseau. Monsieur Chavanas, je n'ai pas tout compris. Peut-être que mon explication était compliquée, je vous l'accorde, mais je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas si vous voulez toute la ligne, tout de suite, ou si vous ne voulez pas qu'on la fasse parce qu'on ne peut pas la payer. C'est ça, je n'ai pas compris. Mais je n'ai pas compris, voilà. Et alors, vous avez dit les tranches, le tronçon, le FASA, etc. Et puis que vous aviez compris que ça allait puis manger vos lieux. Ben, je l'ai tout seul, hein, parce que moi, objectivement, je suis toujours très, très motivé pour qu'on fasse le tout. Et c'est moi-même qui suis à cette fonction-là pour qu'on fasse le tout. Alors, vous dites, vous allez nous faire le coup de champi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, puisque Champy, déjà à l'époque où on avait une prolongation vers Champy, les chiffres de fréquentation étaient 10 fois inférieurs à ce que bon, il aurait fallu pour un métro. Bon. Alors qu'aujourd'hui, Jean-Jacques Bernard l'a rappelé, le potentiel au deux bouts d'ailleurs, hein, est tel que ça correspond bien à un métro et pas à un tramway. C'est-à-dire qu'un tramway ne peut pas transporter tant de personnes. En une journée, vous n'en trouverez pas un tramway sur ces chiffres-là.
Bon,
donc, c'est bien l'objectif de tout faire, et on n'est pas en train de dire, ben non, finalement, on ne fait pas le bout. C'est simplement, à un moment donné, il faut donner et vous voulez, non seulement vous voulez, je ne sais pas si vous voulez faire bruit, ça nous ramène à un très vieux schéma directeur, vous êtes pas qui a signé à l'époque. Et moi je suis preneur, hein, jusqu'à signer, je suis preneur, je vais arriver à bien trouver une citation quelque part. Alors, vous avez posé aussi la question, parce que effectivement dans le débat, là, je vais y revenir un peu, mais dans le débat, évidemment tout le monde a donné des bons arguments et a donné surtout des bons objectifs. Comment desservir la périphérie? C'est effectivement un sujet majeur. Quoi, hein. Qu'est-ce qui a fait le succès de la ligne A du métro? C'est qu'en même temps, on a raisonné en réseau. Et il y a eu des rabattements sur la ligne de métro. La ligne d'assignée, je dis régulièrement, en moins de 18 mois, elle avait augmenté de la fréquentation de 40%. C'est bien la preuve que c'est un système, c'est un réseau. Et vous avez dit, là, donc, il y avait dehors des gens qui disaient, je vais arbitrer avec, puisque c'est insatisfaisant. Les gens qui étaient là, ils n'étaient pas satisfaits. Mais je rappelle qu'il y a 57 lignes, une ligne de métro, que nous transportons 250 000 personnes, pour le 300 000 par jour, qu'en 2000, nous transportions 33 ou 34 millions dans l'année, en 2007, 64 millions et demi. On va titiller les 68 millions à la fin de l'année 2008. Bon, il y a des gens un peu insatisfaits ici ou là. Sans doute parce qu'on n'a pas été parfait. Je revendique le droit à ne pas être tout le temps parfait. Mais bon, on peut se tromper, on peut avoir moins mal apprécié une réalité. C'est le discours qu'on leur a tenu.
Et parce que faire fonctionner un réseau, comme il faut à la rentrée quand on ne connaît pas les heures de sortie des lycées, quand on s'aperçoit que tout d'un coup on avait imaginé une fréquentation X et qu'elle est finalement supérieure, bon, il y a fait des ajustements. Justement, vous avez vu donc une ligne sur les 57, et encore une ligne. Ils sont contents de l'augmentation de la fréquence. Bon. Donc voilà, on est sur un réseau. CCSP dans le pouvoir le plus pertinent, le DAD l'a démontré, enfin c'est le pouvoir le plus pertinent. Et évidemment, on ne peut pas continuer avec ce mode-là jusqu'à signer, encore une fois, je souhaiterais, mais c'est sûrement le plus pertinent. Alors maintenant sur les questions de mes collègues de l'Est, je suis totalement d'accord avec eux, il faut faire la totalité. La sectorisation était prévue dans le DAD. Jean-Jacques Bernard l'a rappelé, c'était prévu. J'ai donné les arguments qui font que il faut choisir un des deux bouts de la ligne, parce qu'on peut faire un garage atelier à la Malquière, on peut faire un garage atelier au Champ-Blanc. On peut en faire, on a même examiné Gailleul. Gailleul, c'est très 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 compliqué, puis c'est pas définitif, parce qu'on a vraiment les moyens de mettre de l'argent comme ça pour quelques années, et puis ensuite aller plus loin. Quelle est la problématique pour l'Est? Pour l'Est, Jean-Jacques Bernard l'a rappelé, tout secteur interparocal nord-est, tous les urbanistes qui ont travaillé sur le sujet, ils raisonnent non seulement avec une ligne de TCSP, mais avec deux. Évidemment, il n'y aura pas de métro, mais avec un métro et avec vraiment une ligne de bus en site propre. Parce qu'effectivement, il y a tout l'Est qu'il faut capter tout de suite à l'arrivée de la rocade quand ce sera fait. Sauf que, mes chers collègues, autant que j'ai le patriotisme de mon secteur, je sais qu'en 2018-2020, on ne sera pas arrivé aux 40 000 habitants et aux 20 ou 30 000 emplois de ce secteur infra-local nord-est. Donc, il faut bien amender et afficher une tranche. L'objectif, il n'en demeure pas moins, que je prends date avec vous, moi aussi, pour que nous fassions la totalité tout de suite. Et en toute hypothèse, ça ne s'arrêtera pas au Champ-Blanc, puisque il y aura sûrement des étapes, la vie ne s'arrête pas en 2018, il faudra regarder comment on dessert jusqu'à la rocade est, quand le secteur infra-rocade nord-est sera urbanisé. Vous conviendrez avec moi que ça ne va pas se faire en 8 jours. On a quelques années d'études devant nous et de réalisation. Donc voilà, la conclusion que je vais donner comme réponse à chacun des intervenants.
Merci. Merci de cet échange. Moi, j'ai compris une chose, mais que la confirmation que Mme Olivreau était contre le métro, mais elle l'a reconfirmé ce soir. Comme Guy Jouyer, la réflexion, j'ai entendu, c'est exactement le discours que j'ai entendu il y a 20 ans. Alors, exactement. J'ai compris aussi que M. Chavana n'avait toujours pas compris ce que c'était qu'une victime réseau, et que j'ai compris aussi qu'il était, malgré ses discours particulièrement alambiqués, il était contre, bon, mais il a droit d'être parfaitement contre, et d'afficher qu'il est contre le métro. Voilà, après le reste, c'est effectivement de l'habillage. Voilà, alors là il s'agit, je le rappelle quand même, alors sur l'aspect, à partir du moment où le phasage a toujours été prévu, je ne redis pas ce qu'a dit Guy, Jouyer, et à partir du moment où on étudie à la fois l'ensemble de la ligne et les autres phases, il y a par constatation les hypothèses sont valables par rapport à ce qui est une mise en concurrence d'industriels. Ça ne change pas, les choses peuvent parfaitement évoluer à l'Est comme à l'Ouest. Et je suis clairement dans la perspective, moi aussi, je vous ai dit, la nécessité de la réalisation de l'ensemble de la ligne. Parce que je pense que nous avons montré que nous avons été capables d'être anticipateurs il y a 20 ans, et je me souviens des discours qui étaient tenus à l'époque, au moment du lancement de la première ligne. Moi, au contraire, je suis convaincu, absolument convaincu, quand on évoque la nouvelle donne économique, la nouvelle donne écologique, eh bien justement, nous devons encore être anticipateurs, et je suis convaincu que c'est en réalisant cette unité, dans son ensemble, que nous serons. Et tous les discours, nous étions la semaine dernière, Guy Jouyer et moi-même, à l'Assemblée Générale du groupement des autorités responsables de transport, ce que nous avons entendu de l'ensemble de nos collègues des agglomérations de France ne fait que me conforter dans ce sens. Voilà, alors, on va mettre au voie, rappelle qu'il s'agit là d'approuver le principe de mise en concurrence. Alors, je mets au voie, tout le monde prend part au vote.
Ce sont des choses qui n'engagent pas.
Alors, quelle opposition ?
Qui fait problème ?
Une, abstention, 1, 2, 3, 4, 5, vous n'oubliez personne. Voilà, donc le rapport est approuvé. Merci mes chers collègues. Nous poursuivons avec le rapport 40.